Yo yo yo.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour chers auditeurs.
C'est l'heure de l'atelier sur Prune.
Fallait juste utiliser ton prénom.
Un espace sonore dédié aux créations, émissions et fictions. Réalisé dans le cadre de nos ateliers radio.
La musique du matin au soir.
C'est ça qui note, t'enregistres pas.
Radio.
Une émission présentée par les jeunes d'EREA La Rivière.
En bac pour une émission 100% Good Vibe avec l'équipe E-Radio.
Bonjour à tous et à toutes, ici l'équipe d'A-Radio, ERA à la rivière La Radio. Bienvenue dans notre première émission qui traite de l'actu musicale, artiste et tout ce que vous aimez. Moi c'est Yaya, votre animateur. Dans le studio aujourd'hui, je suis accompagné de notre fan de foot Mamadou, de notre spécialiste en animé Nicolas, de notre passionné de musique rock Antoine, mais également de Maverick le Geek, de notre joueur Freddy Fasgat et de notre cher lecteur Tibbs. Au programme aujourd'hui, Mamadou, notre fan de foot, nous parlera d'un joueur de foot ivoirien. On retrouvera Nicolas, spécialiste des animés, qui nous présentera son top 3. Puis Antoine, passionné de musique rock, nous dit tout de son groupe préféré. Maverick, dans sa chronique de geek, nous plongeons dans nos souvenirs d'enfance. Avis aux amateurs de la vitesse, Freddy Fasgat, de notre gamer, parle d'un jeu de course auto. Et restez à l'écoute parce que Tibbs finira l'émission en nous racontant une histoire. Et c'est parti avec les actus foot Mamadou. Let's go!
Et 1, et 2, et 3, 0! C'est l'heure du sport sur Air Radio!
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, dans Actu Foot, je vous présente un joueur ivoirien. Ibrahim Sangaré est un joueur professionnel né en Côte d'Ivoire le 2 décembre 1999. Il est âgé de 25 ans. Il est droitier. Il pèse 77 kg pour une taille de 1m91 et il joue au poste de milieu de terrain au PSV Eindhoven. Depuis le 5 juillet 2016, Sangaré s'engage avec le FC Toulouse. La même année, il fait ses débuts sous une nouvelle couleur contre Angers. Avant de connaître sa première titularisation 2016 contre Montpellier. En juin 2017, le joueur ivoirien prolonge son contrat professionnel avec le FC Toulouse jusqu'en 2021. Il marque son premier but en Ligue 1 le 24 février 2018 contre l'ASC Monaco. Lors de la saison 2018-2019, Sangaré s'impose comme un titulaire indiscutable. Il réalise un énorme début de saison au poste de milieu relayeur. Récupérateur avec plusieurs performances notables, comme par exemple contre Nice ou Guingamp. Il a été un élément important de l'équipe toulousaine. Aujourd'hui, l'international ivoirien qui s'est formé au FC Toulouse est dans le club de PSV qui signifie Philippe Sport Vereniging, un club national des Pays-Bas. Pour la petite anecdote, la famille de Sangaré vit dans une cité à Abidjan. Plus précisément dans la ville de Kumasi, une grande ville. Et j'ai pu les voir quand je suis rentré au pays. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.
Merci Mamadou pour ce portrait. On te retrouve vite fait pour une prochaine chronique. Allez maintenant au tour de notre spécialiste au animé de prendre la parole. À qui vamos ?
E-Radio ! Une émission présentée par les jeunes d'Era La Rivière.
Bonjour à tous, ici Nico de la radio. Je vous retrouve pour un top 3 de mes animés préférés. En troisième position, on retrouve Tokyo Ghoul. Cet animé retrace la vie de Kaneki, Ken, un jeune garçon qui devient une ghoul borgne artificielle après avoir reçu des organes de ghoul. Qu'est-ce qu'est une ghoul ? C'est une créature effrayante qui a le pouvoir, comme le kagouné, un organe supplémentaire qu'elle utilise pour se battre. L'apparence du kagouné de Ken lui vaut le surnom de Slokoborn, qui signifie un insecte à mille pattes. En deuxième position, Hunter x Hunter, c'est l'histoire de Gon, le fils de célèbre Hunter, qui signifie chasseur en français, appelé Jean Freaks. Et le neveu adoptif de Mythogon a décidé de devenir Hunter, donc un chasseur, dans le but de retrouver son père. Il ne s'intéresse aucunement à sa mère. Cet animé a été écrit par Yukishiro Togashi et est sorti le 16 mars 1998. Dommage que cette œuvre formidable n'a jamais eu de fin. Et dans le premier top 1, on retrouve Naruto qui m'a le plus marqué car c'est le premier animé que j'ai regardé le plus jeune. Avec ma sœur, cet animé a été écrit et dessiné par Kakashi Kishimoto, ce scénariste japonais devenu célèbre grâce à cette œuvre. Ce Naruto, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a un démon renard à neuf queues. En lui, son rêve, c'est de devenir Hokage, la personne la plus puissante du village et la plus respectée de tous. Au fil de ses aventures, Naruto va apprendre à maîtriser son renard et à devenir l'un des ninjas les plus puissants de son époque et de sa génération.
Merci Nicolas, c'était très intéressant. Et grâce à toi, je vais peut-être me remettre à relire des animés. Nous allons écouter un peu de musique avec Antoine, qui nous parle d'un de ses groupes de punk rock favoris. Et
radio !
Et radio ! Et radio ! Et radio ! Et radio !
Hello, ladies and gentlemen. Bienvenue dans la chronique de la musique. Aujourd'hui, on va parler de music rock avec The Offspring, un de mes groupes préférés. Les Offspring sont un groupe de rock punk américain. Ils sont originaire de Californie aux États-Unis. Ils ont commencé à être sur scène en 1984 sous le nom de Manic Sauce Till Dawn, formé par le chanteur. Ils ont commencé par les scènes de Californie, puis ensuite sur les scènes nationales américaines, jusqu'à faire des concerts à travers le monde entier, avec le soutien des chaînes télévision et radio. Ils ont produit plusieurs musiques comme Secret from the Underground. Ou alors comme Cruising California, explorant le rock. Aujourd'hui, The Offspring est un groupe important dans le rock avec des morceaux très connus comme The Kid Aryan Arlwright. Et rock'n'roll, c'est la fin de cette chronique. On se retrouve dans une nouvelle chronique de musique. Très bientôt, je vous laisse avec You Gonna Go Fat Kid. Sur ce, goodbye!
Time and turning all against one isn't art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance. And I won't even knew it was really only you, and now you steal away. Take him out today. Nice work you did. Thousand eyes and a good disguise, hit 'em right between the eyes, hit 'em right.
Merci Antoine, j'ai hâte de découvrir d'autres groupes. Tout de suite, la chronique du geek de Maverick.
Vous manquez de culture et de pratique ? Bienvenue dans la chronique du geek. Salut à tous et bienvenue dans la chronique du geek. Cette semaine, dans cet épisode de CDG, on va aborder un sujet dont on avait très peu parlé dans cette rubrique. Je vais faire chauffer la DeLorean pour partir de quelques années en arrière, pour qu'on puisse partager ensemble nos souvenirs d'enfance, sur des dessins animés qui ont probablement bercé et forgé notre enfance, et même votre enfance. Je vous ai préparé un top 4 de mes dessins animés favoris. Numéro 4, l'inspecteur Gadget. Ce célèbre policier humano-robotique, comme j'aime le décrire, a été créé en 1983 par Bruno Bianchi, Andy Hardware et Jean Chalopin, et diffusé sur France 3 du 12 septembre 1983 au 1er février 1986. Étant une coproduction américano-franco-nippo-canadienne, c'est Andy Heward qui a proposé le premier l'idée d'un inspecteur muni de gadgets. Comme la plupart des dessins animés des années 80-90, il est passé par les films, les jeux vidéo ou les figurines. Un petit peu comme notre numéro 3, mais on en reviendra un peu plus tard. La série a été plusieurs fois rediffusée. En 1991 dans le Club Dorothée sur TF1, puis en 1996 sur Canal J, et pour finir en 2016 sur Gulli jusqu'en 2015-2016. Numéro 3, Les Aventures de Tintin, ou juste Tintin, est un dessin animé diffusé en 1991 sur France 3. Il est adapté de la célèbre bande dessinée créée par Hergé en 1928, qui était publiée dans le journal catholique pour scouts appelé Le Petit Vingtième. Si vous avez lu, ou au moins regardé la bande dessinée, vous remarquerez que le dessin animé n'est qu'une adaptation télévisée comme de nombreuses BD américaines, européennes ou japonaises. Par ailleurs, il n'y a pas d'épisode inspiré de la BD, mais juste extrait des livres. Numéro 2, Oggy et les cafards. Oggy et les cafards est une série animée créée en 1998 par Jean-Yves Rabault, réalisée par Olivier Jean-Marie et par Marc Dupontavis, qui ont réalisé également une fiction quelques temps avant celle-ci. La série relate les aventures comiques d'Oggy, un chat bleu, reconnaissable par sa carrure, son nez de clown et ses gants blancs. Sans cesse harcelé par un trio de cafards. Joey, Marky et Dédé. Numéro 1. Les Zinzins de l'espace, ou Spé Goof en version anglophone, est une série animée française produite par Marc Dupontavis également, créée par Jean-Yves Rabault également et Philippe Traversa, et réalisée par Thomas Zabot en 1997. Au départ, la série devait s'appeler Maison à louer, mais avant sa diffusion à la télé, la série a été rachetée par France 3 et devra changer de nom. Elle sera ensuite diffusée le 6 septembre 1997. Je vais passer en revue les personnages principaux avant de passer au scénario. Tout d'abord, il y a Ethno, le chef, l'intello de la bande, qui brille notamment par son ego surdimensionné. Ensuite, on a Gorgeous, le goinfre, le bourrin, bref, le Gérard Depardieu intergalactique en quelque sorte. Ensuite, il y a Bud, qui incarne l'ado de service constamment à la ramasse et obsédé par la télé. Son nom et sa couleur sont une référence à l'orange bud, qui est une variété de plante, autrement dite, toxique. Ce qui explique pourquoi elle est toujours à dire. Pour finir, on a Candy, un personnage assez émotif et très maniaque qui est la fée du logis dans cette colocation. Je pense que vous connaissez déjà l'histoire. Je vous la refais quand même. 5 aliens se baladent dans l'espace et s'écrasèrent sur Terre après un accident de soucoupe volante. Ils sont contraints de vivre dans le grenier d'une maison, sauf que celle-ci est sans cesse convoitée par des locataires indésirables et ils vont tout faire pour les faire partir. Chaque épisode est basé sur les problématiques de société comme la pollution, la corruption, le capitalisme ou l'escroquerie. Les Zinzins de l'espace se moquent aussi des clichés de l'être humain, souvent caractérisés comme pollueurs, manipulateurs ou escrocs. Bref, le pire être humain du monde. Et forcément, comme Oggy et Cafard, cette série a la particularité de mélanger l'humour avec la violence. Ce qui s'appelle le slapstick. Vous vous dites sûrement, qu'est-ce que c'est que le slapstick ? Le slapstick, c'est un humour basé sur la violence physique, théâtralisée, souvent surjouée, qu'on trouve déjà dans le cinéma burlesque comme celui de Charlie Chaplin. Cet humour joue à fond sur les déformations et sur l'exagération de la moindre expression. Le dessin animé a ensuite été adapté en jeu vidéo, une seule fois seulement, en bande dessinée et presque en long métrage. Mais malheureusement, le film n'a jamais vu le jour. En effet, alors qu'il était en cours de réalisation, la société qui s'en occupait a eu des soucis financiers et le projet a dû être abandonné. Par contre, la bande-annonce du film a pu être réalisée et elle est toujours disponible sur YouTube. C'est avec cette touche de nostalgie que se clôture cet épisode de Chronique du Geek. On se retrouve la fois prochaine pour un nouvel épisode de CDG. Il y aura sûrement une deuxième partie sur cette thématique. En attendant, je vous laisse, mais n'oubliez pas, même en vieillissant, gardez votre âme d'enfant.
Merci beaucoup Maverick pour toutes ces infos sur les dessins animés. Et tout de suite, avant de passer à la lecture de Tibbs, place à Freddy Fazekas qui nous présente Need for Speed Carbon, un jeu de voiture. Découvrez tout de suite ce jeu avec la chronique Gaming Freddy.
E-Radio. Une émission présentée par les jeunes d'Era, la rivière.
Bonjour à tous, ici Freddy Fazekas pour E-Radio. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu rétro gaming appelé Need for Speed Carbon. Un ancien jeu qui a toujours la cote auprès des fans de vitesse automobile. Need for Speed Carbon est le deuxième épisode de la série Need for Speed pour EA Black Box et édité par Electronic Arts. Need for Speed Carbon, sorti en 2006 sur PS2, GameCube, Xbox et Wii, puis Xbox 360, PS3 et PC, et la suite de Need for Speed Most Wanted de 2005. Ce jeu parle d'une BMW M3 GTR, une voiture de course qui a été modifiée pour rendre la voiture unique et emblématique. Pour commencer, je dois vous parler de Need for Speed Most Wanted de 2005. Sur le jeu, vous allez jouer votre personnage et vous allez avoir un pari contre une personne appelée Razor. Razor veut absolument conquérir cette fameuse voiture emblématique. Vous devez absolument battre 10 boss dans la liste noire pour récupérer cette fameuse voiture. Après, à la fin du duel entre votre joueur et Razor, vous devez absolument partir de Rockport pour finir cette partie du jeu. Sur Need for Speed Carbon, vous allez avoir la dernière cinématique de Need for Speed Most Wanted 2005. Vous devez absolument vous échapper d'une personne appelée Cross, un policier et à la fois un chasseur de primes. Mais entre-temps, il y a eu un pari entre trois boss, Angie, Wolf, et pour finir, il y a Kenji. Ils ont mis une somme dans un sac, ils ont commencé la course, et à la fin de la course, il s'est passé qu'entre-temps, il y a eu la police qui a immobilisé les voitures pour les arrêter. Il y a eu une personne appelée Nikki, votre partenaire dans le jeu. Elle va s'enfuir avec la somme gagnée. Mais il se passe que Darius, l'ennemi du jeu, il bouscule violemment Nikki pour faire un échange de sacs d'argent. Il se passe que vous repartez avec la mauvaise somme. Mais vu que Darius va récupérer les deux sommes, du coup vous devez absolument vous venger. Darius va vous défier dans un circuit dans son territoire et pour finir dans le canyon. Bah après que la course canyon a été finie, c'est la fin du jeu. Il est donc plus intéressant que les autres Need for Speed car il propose de nouvelles fonctionnalités à la licence comme possibilité de créer une équipe, faire des duels au canyon. À vous les parties de vitesse avec Need for Speed et bonne journée.
Eh ben, merci beaucoup Freddy Fazekas pour cette très belle présentation de ce jeu de vitesse. Maintenant, j'ai envie de le jouer. Et pour finir, Tibbs, notre lecteur, va nous raconter une histoire qu'il a écrit lui-même. C'est l'heure de littéral, Tibbs. Bonne écoute.
Pensant être la dernière humaine sur Terre, elle va découvrir qu'elle n'est pas si seule que ça dans la galaxie. C'est l'histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Tout de suite, l'épisode 1. Il était une fois, sur la Terre, une jeune femme humaine qui était la dernière de son espèce. Elle se sentait si seule et déprimée. Ça faisait bientôt 4 ans qu'elle errait seule sur la Terre à la recherche de ses semblables. Une nuit, notre jeune humaine se mit en route pour continuer ses recherches du côté de l'Asie, car c'était le seul continent qu'elle n'avait pas encore visité. Sur le point de partir, une lumière venue tout droit du ciel passa tout près de l'Europe pour atterrir non loin de Jiangkong en Asie. Dès qu'il vit cette drôle de lueur se diriger vers l'Asie, elle prit le nécessaire en termes de matériel et partir vite pour trouver cette lumière. Des jours après cet événement, elle se trouvait non loin des frontières entre la Biélorussie et la Russie. Elle était déterminée à retrouver cette lueur. Elle voulait savoir qu'est-ce que c'était cette lumière qui venait de l'espace. Une fois arrivée en Russie, elle décida de faire le plein de nourriture. Mais avant de repartir, elle aperçut une silhouette ressemblant à celle d'un jeune homme. Dans la brume épaisse, quand elle voulut se rapprocher, la silhouette disparut. La jeune humaine comprit vite que c'était que son imagination qui lui jouait des tours. Une fois les vivres achetés, elle se remit en route pour l'expédition en Asie. Sur la route, elle se demande si la silhouette qu'elle avait vue dans la brume était son imagination ou la réalité. Elle était tellement concentrée qu'elle ne fit même pas attention qu'elle était proche de la Chine, non loin de Jiangkong. Quelques heures plus tard, elle était enfin arrivée à destination. Et elle vit la végétation en feu. Elle n'hésita pas une seconde et courut droit vers la forêt enflammée. Puis elle avançait, plus la fumée était épaisse. Il était impossible d'aller plus loin. Elle n'en pouvait plus. La jeune humaine perdait tout espoir jusqu'à ce que la lumière refasse apparition. Elle aperçut la lumière et se mit à courir vers l'endroit où se trouvait la chose lumineuse. Quand elle arriva sur les lieux, elle resta ébahie car la chose lumineuse était un vaisseau spatial de la NASA qui devait au moins dater de 20 ans. Qu'est-ce qu'il peut avoir à l'intérieur ? Rendez-vous dans la prochaine émission pour connaître la suite.
Merci Tibbs, c'était une bonne lecture palpitante. Hâte de connaître la suite. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier chacun des membres de l'équipe E-Radio pour toutes ces chroniques. Passez une agréable fin de journée. À très vite sur Prune. Goodbye.
E-Radio, une émission réalisée par les élèves de l'Erea à la Rivière, à Nantes.
Retrouve l'émission sur le site Erea La Rivière et sur prune.net. C'était l'atelier sur Prune. Retrouve le podcast de l'émission sur prune.net.
En tout cas, j'étais très content d'être ici et de partager ce moment avec mes amis.